Radio Okapi.
Le journal présenté par Belinda Bosuma.
Élèves et déplacés se partagent les salles de classe. Cela se passe dans le Niragongo, Nord Kivu. Du coup, les activités scolaires sont paralysées dans cette partie du pays. Cela deux semaines après la rentrée scolaire. Responsable d'école et déplacé lance un SOS en direction du gouvernement. 48 heures après la rentrée parlementaire de septembre, des questions orales avec débat et des interpellations du Premier ministre sont déjà enregistrées. Le député national Gratien Irachan exige de Samalou Kondé notamment des explications sur le massacre des civils par des hommes en uniforme à Goma. D'abord ce drame qui a coûté la vie à 17 personnes à Lissala dans la Mongala. Il s'agit là d'un bilan provisoire. Ces personnes sont décédées dans un éboulement survenu dans la nuit de samedi à hier dimanche. Il a été provoqué par une pluie diluvienne. Le quartier Akula, où le drame est survenu, est situé au bas-fond d'un monticule le long du fleuve Congo. Selon des témoins, plusieurs maisons sont englouties et le pire est même à craindre avec le retour des pluies. D'après le président du conseil provincial de la jeunesse, cette situation n'est que la suite logique de la progression de plusieurs têtes d'érosion qui menacent la vie de Lissala depuis plusieurs années. José Lipango interpelle les autorités pour que Lissala soit immédiatement prise en compte dans le programme gouvernemental de lutte anti-érosive. José Lipango est au micro de Jacques-Yves Molima.
Depuis plusieurs années, la ville de Lissala fait face au problème d'érosion. Le problème a été soumis plus d'une fois au gouvernement, mais sans suite. Il y a des programmes de lutte anti-érosive, mais Lissala est totalement oublié. Ainsi, nous demandons l'implication des chefs de l'État, que Lissala soit aussi prise en compte dans le programme de lutte anti-érosive. Lissala ne doit pas continuer à enterrer ses morts pour cause de l'érosion. Nous invitons nos dignitaires à aller rencontrer les chefs de l'État pour trouver une solution par rapport à la situation de la ville de Lissala qui est vers la disparition.
À tous et à toutes, bonjour. Nous allons à présent au Nord Kivu. Deux semaines après la rentrée des classes, quelques établissements publics dans le territoire de Niragongo peinent à fonctionner. Et pour cause, ces écoles sont toujours occupées par les déplacés de guerre. Élèves et déplacés se partagent ainsi les locaux aux grandes dames des responsables scolaires. Conséquence, les activités scolaires sont paralysées. Responsables d'école et déplacés lancent un SOS en direction du gouvernement pour qu'une solution urgente soit trouvée. Denise Loukesso signe ce reportage.
Nous quittons à 13h, Kibumba aussi entre dans les locaux pour aussi enseigner les enfants. Donc elle est déplacée entre vers 17h.
C'est une réalité. L'Institut Mugara et l'Institut Kibumba, deux institutions scolaires qui fonctionnent dans les mêmes locaux et se partagent les salles de classe avec les déplacés faute d'abri. Ce responsable de l'Institut Mugara indique que l'occupation des salles de classe par les déplacés handicape sur l'éducation des élèves.
Nous sommes ici, nous sommes mélangés avec les déplacés. Alors c'est difficile vraiment d'évoluer, mais nous sommes obligés de le faire. Bon, le matin quand nous arrivons, il faut sortir leurs objets à l'extérieur. Il y a d'autres qui restent au coin au moins de la salle et les élèves étudient. Et quand nous quittons vers 13h, eux aussi regagnent encore les locaux.
Il n'est pas facile de suivre les cours dans ces conditions, se plaint cet élève.
Étudiant mal parce que leurs objets sont en classe. On manque comment s'asseoir, comment étudier. Les gens entrent dans les salles de classe et puis on manque comment on peut continuer avec les cours.
La souffrance des déplacés s'aggrave avec l'arrivée de la saison de pluie. La bâche peut contenir combien de personnes pour s'abriter chez autrui. Nous souffrons beaucoup. Autant mieux rentrer chez nous et vivre avec l'ennemi parce qu'ici, personne ne s'occupe de nous. Goma, Denise Loukesso, Radio Okapi.
Nord Kivu toujours, des voix s'élèvent pour déplorer la baisse du niveau de l'éducation dans la province éducationnelle Nord Kivu 3, notamment dans le territoire de Walikale. D'après les organisations et acteurs qui œuvrent dans ce secteur, la qualité de l'éducation et la formation des enfants ne sont plus à la hauteur. Cela s'est matérialisé d'après eux, notamment par les résultats de l'examen d'État qui sont catastrophiques dans cette zone. Un élu provincial de Walikale propose la tenue d'une table ronde scientifique pour examiner cette question. Prince Kiangi est au micro de Denise.
C'est l'avenir du territoire de Walikale qui devient sombre, car la qualité de l'enseignement et la formation que subissent nos enfants est très critique. L'éducation de nos enfants se réduit à une activité génératrice de revenus. Il arrivera que les autres régneront sur eux et les domineront. Ils deviendront des vassaux parce que tout simplement n'auront pas été bien formés. Lorsque les compétences locales feront défaut, on aura recours à une main-d'œuvre étrangère pour occuper le territoire de Walikale. L'air est grave et Walikale s'émeut. Voilà pourquoi j'en appelle à tous les fils et toutes les filles du territoire de Walikale à prendre leurs responsabilités. Dans ce vide d'autorité scolaire, nous devons nous prendre en charge. C'est ainsi que je propose la tenue d'une table ronde scientifique à Walikale où nous allons devoir traiter de l'avenir du secteur de l'éducation dans le territoire de Walikale. Car en effet, l'avenir du territoire de Walikale sera ce que nous aurons fait de nos enfants aujourd'hui.
Nos efforts pour obtenir la réaction de la Division provinciale de l'éducation Nord Kivu à ce sujet n'ont pas abouti. Du côté de l'Ituri, les cours n'ont toujours pas repris dans plusieurs écoles des territoires de Djougou et Daru deux semaines après la rentrée scolaire pour cause le durcissement de la grève des enseignants qui réclament le paiement des arriérés de salaire de juillet et août dernier. Certains élèves, dont des finalistes du secondaire, demandent au gouvernement de trouver des solutions à cette situation qui pourrait perturber le programme scolaire. Ézéchiel Mouzalia.
Au cours de leur assemblée générale tenue à Aru Centre, les enseignants de ces territoires disent constater l'indifférence des autorités face à leurs multiples revendications. Il s'agit notamment du paiement de leurs salaires et l'éradication de la zone salariale. Même situation pour les enseignants de la sous-division de l'EPST Djougou 1 qui réclament le changement de leur agent payeur, accusé de lenteur dans l'organisation de leur paye, Delo Boulé.
Nous avons décidé que chaque enseignant entre en grève sèche. Grève qui ne sera levée que le lendemain du jour où Caritas nous paiera le salaire.
Une décision qui n'enchante pas du tout les élèves finalistes du secondaire désireux de poursuivre les programmes scolaires. Ils invitent les gouvernements à résoudre urgentement ces problèmes qui, selon eux, risquent de perturber le calendrier scolaire. Alfred Ndruinga Lembo, porte-parole des élèves de l'Institut Gina.
Nous ne savons pas pourquoi nous n'avons pas passé le cours aujourd'hui. Nous sommes pénalisés à cause de ça, que le gouvernement puisse nous faire des questions. Même demain ou après demain, vous puissiez quand même étudier. C'est ça notre souci.
Le secrétaire exécutif du gouvernement provincial qui appuie les secteurs de l'éducation en Ituri indique que ces revendications des enseignants sont d'ordre national. Bounia, Ézéchiel Mouzalia, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, 48 heures seulement après l'ouverture de la session parlementaire de septembre, les parlementaires cherchent à avoir des réponses quant à la gestion par le gouvernement de certaines questions cruciales relatives à la marche de la nation. Des questions orales avec débat et des interpellations du Premier ministre sont déjà enregistrées, notamment en rapport avec la situation sécuritaire, l'expression démocratique, mais aussi la situation sociale jugée précaire avec le problème qui se pose dans le secteur du transport aérien. Dans son interpellation introduite en début de week-end, juste après l'ouverture officielle de la session en cours, le député national Gratien Irachan exige du Premier ministre des explications sur le massacre de la population civile par des hommes en uniforme à Goma. Gratien Irachan est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avons pensé qu'il faut passer par l'interpellation qui peut aboutir à une motion de censure, tout simplement parce que selon les différentes vidéos que nous avons pu analyser, nous voyons des éléments de la garde présidentielle, nous voyons aussi certains éléments de nos forces armées, on parlait aussi des policiers. Bon, finalement, il faut que nous puissions écouter les premiers ministres pour établir les responsabilités. Et s'il s'avère qu'il y a la responsabilité du gouvernement qui est engagé ou une défaillance du gouvernement par rapport à ce qui s'est passé à Goma, nous serons obligés de frapper très fort parce que nous devons protéger quand même la population. Le problème, c'est aussi avec la présence de la garde républicaine qui ne dépend pas du gouvernement. Et donc là, c'est encore une autre idée qu'il faudra mener tout autour de cela. Mais pour le moment, nous voulons d'abord obtenir toutes les informations compte tenu de la gravité auprès du Premier ministre devant la représentation du peuple.
Par ailleurs, la cour militaire ordonne l'inhumation des corps des victimes de la répression sanglante du 30 août dernier à Goma. Décision prise lors de l'audience de samedi dans le procès contre les présumés auteurs de la marche au cours de laquelle plus d'une cinquantaine de personnes ont été tuées par les forces de l'ordre. Au cours de la même audience, les services de renseignement militaire de la 34e région ont présenté des armes et autres effets saisis dans le temple des Wazalendo lors des événements du 30 août dernier à Goma. Faisons le point avec Gabriel Wamenya qui couvre ce procès.
Au total, 18 armes de marque AK-47 et 7 chargeurs garnis, 8 cartouches du PKM, 4 aiguilles et un mixeur radio ont été présentés par le directeur des services de renseignement de la 34e région militaire à la cour militaire. Devant les juges, les responsables de ces services a affirmé que ces armes ont été remises par vague à la région militaire par les chargés de renseignement de la garde républicaine. Mais dans sa déposition, le principal accusé, le colonel Mike Mikombe, a dit que ces armes n'étaient pas liées aux événements du 30 août dernier qui a coûté la vie à 57 personnes selon les derniers bilans avancés par l'auditeur supérieur près la cour militaire, le colonel Kachil Michel. Dans la confrontation entre les directeurs des renseignements de la 34e région militaire et le prévenu Mike Mikombe, une vive discussion est survenue quant à la question de savoir si les armes remises étaient bel et bien trouvées au temple de Ouazalendo. Notons qu'à la fin de l'audience, la cour a ordonné l'inhumation des corps des victimes par un arrêt rendu tard dans la soirée. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Et puis, sachez que les victimes de violences sexuelles de 5 provinces pilotes vont bénéficier d'une réparation complète après les préjudices subis depuis 1993. L'annonce est faite par Lucien Lundula, directeur général du Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. C'était la semaine dernière à Kimpese au Congo central, point de chute d'une mission d'itinérance qui a conduit la délégation du FONAREV en Ituri, dans les deux Kivu et au Kasaï central. Mais d'où viendront les fonds de ces réparations collectives? Le directeur général du FONAREV répond au micro de Jody Daniel Nkashama.
Le législateur a mis à la disposition du FONAREV 15 sources de fonds. Il y a évidemment le budget de l'État qui est prévu pour le FONAREV. Il y a également les assurances 2.5 à travers la République démocratique du Congo. Mais nous pensons que le fait d'avoir avec nous également les redevances minières à hauteur de 11% permettra effectivement d'avoir suffisamment de moyens pour pouvoir initier les différents programmes que nous comptons mettre en œuvre pour aller, disons, dans les réparations collectives et toucher un grand nombre de nos victimes. Là maintenant, puisque nous avons suffisamment d'éléments qui nous permettent d'établir notre calendrier de premières actions, dans les prochaines semaines, l'équipe des opérations s'attellera à rencontrer de nouveau les différentes parties au niveau des différentes provinces pour nous permettre d'aller directement dans des actions prioritaires, parce que les priorités ont été très clairement établies. Il nous appartient maintenant de mettre les moyens et les actions pour y parvenir dans le plus bref délai.
Autre nouvelle, un pays qui n'encadre pas sa jeunesse prépare son propre chaos. C'est le président territorial de la jeunesse de Lubero au Nord Kivu qui le dit. C'est à la suite d'une formation à la lutte contre la désinformation et le discours de haine organisé à Lubero par la section des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO. Une formation qualifiée de bienvenue et d'utile par les participants dans cette région où la désinformation et les rumeurs sont à l'origine du retrait des humanitaires depuis bientôt 14 ans. Philemon Paluku, président territorial de la jeunesse de Lubero, alerte sur les dangers de ce phénomène. Il appelle par ailleurs les hommes et femmes politiques à ne pas manipuler les jeunes avec des discours de haine, mais plutôt à préparer la jeunesse à émerger. Philemon Paluku est au micro de Marc Marofimbo.
Nous sommes en train de préparer la jeunesse pour les élections qui pointent à l'horizon. À ce jour, vous voyez qu'il y a beaucoup de discours de politiciens. Alors ici chez nous, nous avons constaté que notre pays n'a pas une politique d'encadrement de la jeunesse. Et j'ai souvent dit que un pays qui n'encadre pas sa jeunesse, il est en train de préparer et d'entier. Alors nous sommes en train d'organiser des séances avec les jeunes pour les montrer comment ils vont voter. Ils doivent voter utile, qui doit aider ce pays, qui ne puisse pas se plonger dans des affaires là de discours de haine, là où nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser la jeunesse, de lutter contre les discours de haine, les désinformations, de vérifier les vraies informations. Et je demande aux autorités, leaders comme moi, de donner à la population des discours qui peuvent aider ces pays à évoluer, des discours qui peuvent aider la jeunesse à émerger. Pas les discours de haine, les discours qui vont amener la jeunesse de mourir dans la rue, d'être tués par les agents de l'ordre à cause des marches non autorisées par les autorités locales.
Actualité internationale.
Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont consolidé leurs relations ce week-end. Les trois pays du Sahel ont signé à Bamako une charte établissant une alliance défensive. L'alliance a pour but d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle avec en toile de fond la lutte contre le terrorisme auquel les trois pays font face, annonce faite par le président de la transition malienne. C'est la fin de ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Alain Goya, la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.